Bonjour à tous, chers amis, auditeurs et auditrices. Vous et moi sommes sur l'antenne de Radio Alliance Plus et nous ouvrons ensemble un nouvel épisode de Bande à part. Bande à part, c'est votre émission et podcast qui zoome sur les collections et le patrimoine artistique visible à Nîmes. Bande à part, c'est donc l'émission d'histoire de l'art qui donne à entendre ce que vous pourriez voir. Aujourd'hui, faire bande à part, c'est prendre ensemble la direction du musée des Beaux-Arts de Nîmes et nous pencher, tel un amant émerveillé, sur un nu couché de Fujita, daté de 1922. Fujita, c'est un artiste à la créativité multiforme et dont le nu couché de Nîmes, nous l'appellerons ainsi, a recouvré la lumière depuis peu. Et l'histoire de ce nu couché, c'est d'abord l'histoire d'une réhabilitation. Acheté au Salon des Indépendants de 1923, par Gaston Bouzanquet, bienfaiteur du musée qui lui en fit don en 1924, cette œuvre a été longtemps récusée, car suspectée par les anciens conservateurs, au motif que la veuve de l'artiste considéra longtemps cette œuvre de jeunesse comme un faux. Cette huile sur toile de 75,5 cm de haut sur 115,7 cm de large accède à la reconnaissance critique en 2006 seulement, quand son procédé, enfin confrontée à celle des œuvres de l'exposition de Tokyo, signe la technique unique de l'artiste, à savoir le trait d'encre de Chine sur une préparation à l'huile. Avant d'explorer ce nu et de le faire parler autant que possible, présentons à grands traits la figure inédite de cet artiste japonais et fantasque de l'école de Paris. S'intéresser à Fujita et à son parcours, c'est être comme emporté par le vent d'un tourbillon. Celui d'un peintre, aquarelliste, auteur de fresques, graveur, lithographe, dessinateur, illustrateur et styliste décorateur. Celui aussi d'un personnage vedette des années folles et du Montparnasse des années 20. Tsuguharu Fujita est né en 1886 à Tokyo. Issu d'une famille cultivée et ouverte aux idées occidentales, il apprend le français dès l'école primaire. Diplômé de l'École des Beaux-Arts de Tokyo en 1910, il a étudié les maîtres du dessin occidental tout en rêvant de l'Europe, et plus précisément de Paris, qui en ce début de siècle reste la capitale des avant-gardes. Débarqué en France en 1913, il travaille avec acharnement ses thèmes de prédilection que sont la femme, les chats, les natures mortes, les autoportraits, les enfants. Tandis qu'il côtoie, entre autres, Picasso, Modigliani, Zadkine, Desnos, Soutine, Cocteau, et j'en passe, alors que les formes et les couleurs explosent dans les ateliers des peintres parisiens, il s'évertue à perfectionner un dessin à l'encre noire, au trait fin et minutieux, sur des fonds ivoires dont il a le secret, et des couleurs à l'huile en glacis transparent et léger. À ce titre, apprécions deux commentaires de l'artiste sur son travail et sa manière. Dans le premier, il confie « À peine revenu de chez Picasso, je suis entré chez moi et j'ai jeté par terre toutes mes couleurs et mon matériel de peinture. Nous n'étions qu'au second jour de mon arrivée à Paris et déjà je tentais d'oublier toutes les techniques que j'avais apprises au Japon, de comment tenir sa palette à la manière de laver les pinceaux. » Dans le second extrait, il déclare « La plupart des artistes, comme Matisse, Braque, peignait avec une brosse large. Contrairement à eux, je me suis mise à peindre avec un pinceau fin. Tout le monde utilisait beaucoup de couleurs superbes, mais j'ai cherché à peindre légèrement et en noir et blanc. » Ces deux citations de l'artiste nous permettent de saisir combien son arrivée à Paris provoque en lui une révolution autant qu'une résolution plastique, si bien qu'il doit sa spectaculaire fortune critique à sa singularité de style. Des années 20 aux années 30, ce sont les années d'un succès insolent. Son nu couché à la toile de Jouy fait l'événement au Salon d'automne de 1922. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1925 et expose dans tous les salons, non seulement à Paris, mais aussi à Bruxelles, en Allemagne, aux États-Unis et au Japon, de sorte qu'il entre dans de nombreuses collections privées et que dans la presse nationale et internationale, on parle de lui, tantôt en bien, tantôt par ironie. En 1928, paraît une enquête sur le Montparnasse actuel. On y découvre, non sans amusement, une illustration représentant notre peintre en osseur, coupe au bol et lunettes rondes, vêtu d'un kimono aux trois quarts, un cigare à la bouche. Ses mains semblent prêtes à saisir d'un côté une bourse sur laquelle est écrit 100 000 francs, de l'autre une palette de peintre à deux pinceaux, pendant qu'un tableau de nu caricatural penche au-dessus de sa tête. Dans les années 30, Fujita quitte la France et voyage principalement en Amérique latine, puis au Japon, où il séjourne. Pendant la Seconde Guerre, il sert son pays en étant peintre militaire. Dans les années 50, s'ouvre une nouvelle période parisienne discrète et laborieuse. En 1955, il est naturalisé français. En 1959, il se convertit au catholicisme et prend en hommage le prénom de Léonard de Vinci lors de son baptême en la cathédrale de Reims. Son dernier grand chantier reste la décoration des fresques de la chapelle Notre-Dame de la Paix à Reims, dite aussi chapelle Fujita, érigée en collaboration avec son parrain, alors directeur de la maison de Champagne même. Léonard Fujita décède en 1968. Depuis, sa troisième épouse a confié tous les droits de ses œuvres à la Fondation des apprentis d'Auteuil. Le nu qui nous intéresse, que nous appellerons le nu couché de Nîmes, frappe d'abord par sa sobriété. Dans la toile, ce sont comme deux aplats qui cohabitent, l'un noir, l'autre blanc. Le noir servant de fond, c'est dans la partie blanche que s'épanouit le trait d'encre qui vient modeler un corps de femme. Elle est allongée sur son côté gauche, son coude lui servant d'appui fragile. Son bras droit se dissimule derrière son buste, un buste discret. Les seins, marqués par deux auréoles d'un rose très pâle, le même que celui qui colore la bouche, sont petits. Les épaules et la tête reposent sur un grand coussin, dont les plis viennent se diluer dans ceux d'un drap qui accueille le corps nu. La chevelure noire, qui semble ramassée en arrière, vient cerner un visage oblong, ponctué de deux yeux noirs eux aussi. Le corps est délié, la jambe droite qui passe au-dessus de la jambe gauche, repliée, elle, vers l'arrière, confère une certaine retenue à l'allure générale, et le modèle n'a rien d'alangui, il semble même surpris. Malgré la nudité, malgré le pubis très noir qui contraste avec ce corps d'ivoire, malgré enfin ce regard qui soutient le nôtre, on peut s'étonner. L'attitude hiératique de cette femme ne cherche à convoquer à aucun moment un désir fauve et la charge érotique de ce nu est quasi nulle. Rappelons-nous, ne serait-ce que la série des grands nus couchés de son contemporain Modigliani, lesquels offrent au regard des seins pleins comme des fruits mûrs, des courbes affirmées sur ton chaud, et des regards où le feu couve. L'originalité de Fujita n'est-elle pas de s'adonner à l'exercice d'un nu qui cultive une sobriété forcenée en s'appuyant sur un dépouillement tout en contraste de noir et de blanc. Je vous remercie de votre écoute. C'était Bande à part pour une toile de Tsugugaru Fujita et on se quitte avec Spark de Niklas Pachberg. À bientôt.